I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et cette fois, au miracle, il est là, il est parmi nous, le grand Ernest Bordeaux. Salut Arnaud, salut Ernest, vous l'avez réclamé à corps et à cri.
Et voilà, bonjour à tous.
Pendant toutes ces années, voilà. Donc le voilà, il est là. Alors non, mais dis bonjour un peu mieux Arnaud, s'il te plaît. Alors, à
bonjour,
tous les fans.
Bonjour à tous, je suis très content de revenir donc dans Capture Mag. Bon, j'en étais pas totalement parti, hein. Je continuais.
Un an et demi, Arnaud.
Oui, mais je continuais de regarder un petit peu
tout va
les
bien,
programmes, les copains, tout ça. Donc voilà, j'ai suivi un peu les aventures, même si j'étais un peu à l'extérieur. Mais voilà, donc très content de revenir, et surtout pour parler du film dont on va parler.
Ah oui, alors qu'est-ce que tu as vu de beau, Arnaud, dont on va vous parler aujourd'hui?
Alors c'est Grimsby, hein,
Grimsby,
c'est ça,
agent trop spécial en français,
ouais,
de Louis Leterrier,
ouais.
Voilà, un film qui ma foi te fait beaucoup rire, n'est-ce pas? Alors en fait le truc c'est que on a choisi ce film parce qu'on s'est dit il faut qu'on trouve un film où on se poêle tous les deux comme des baleines, voilà.
Ce qui a été le cas quand on l'a vu à une époque ensemble.
Voilà, c'est ça. Toi tu l'avais jamais vu, moi je l'avais vu en salle,
ouais.
Où je l'avais vu avec Julien. Dupuis et Gab, notre ami Gab, et on était poêlés comme des baleines aussi, hein, ouais, pour le dire quoi. Donc c'est et je pense même aux grandes dames de tous les autres spectateurs qui comprenaient pas trop ce qui se passait quoi quand ils regardaient le film quoi. Et ensuite j'ai comment dire, alors il est vrai que j'ai enregistré un petit podcast dessus à l'époque de nos ciné avec l'ami Thomas Rozek où je lui racontais le film et il explose de rire pendant le podcast quoi. On s'est dit il faut quand même traiter ce film en profondeur, voilà. Et surtout, je me suis dit ça à partir du moment où, effectivement, un jour, je t'ai montré le film chez moi.
Bon,
et que tu t'es poilé comme une baleine aussi.
J'avais
s'est tous poilés comme des baleines, mais on est peu, finalement.
J'avais raté le film, effectivement, en salle. Et je me souviens surtout de cette projection chez toi où, en fait, à deux, trois reprises, on a dû mettre la pause. Quoi. tellement je n'en pouvais plus.
C'est-à-dire qu'il faut savoir que les gens ne le savent pas forcément, mais Arnaud, quand il rigole, en fait, il tombe du canapé, limite. Donc voilà. Donc là, on lui a mis un espace assez large, au cas où, en fait, il puisse rigoler, on puisse le rattraper, voilà. Donc, allons-y. Alors, est-ce qu'on pitch à Agent Trop Spécial? C'est vraiment, en gros, leur pitch à eux, c'est le frère de James Bond.
Voilà.
C'est ça, la logique.
Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'a été... On y reviendra peut-être un petit peu après, mais c'est comme ça qu'a été vendu le concept du film, quoi. Au départ, avant même qu'il commence à le développer, hein, juste l'idée de départ. Le scénariste, je crois, est arrivé chez Sacha Baron Cohen et lui a présenté ce pitch. C'est le frère de James Bond, quoi. Voilà. Donc Grimsby, agent trop spécial, contrairement à ce que laisse entendre le titre français. Ce n'est pas le nom de l'agent en question, Grimsby, c'est le nom du bled.
Dont il vient, lui et son frère. Ouais.
Voilà, dont ils viennent. Parce que donc, c'est donc l'histoire de deux frères. Et alors, il y en a un qui est deux frères qui est anglais, hein, qui vivent dans une petite bourgade typiquement anglaise. Et il y en a un qui est resté au pays et qui est devenu une sorte de hooligan un peu dégénéré sur les bords, adepte de football et de bière.
Trop lourd quoi, mais voilà. Vraiment poussé à l'extrême de sa bêtise quoi.
Voilà, avec un look où Sacha Baron Cohen s'est fait la tête de Liam Gallagher. Là,
ouais, il le cite ouvertement d'ailleurs.
Et donc son autre frère qui lui a quitté Grimsby et est devenu un espion international.
Vous l'avez réclamé, c'est le retour des pitchs qui prennent 3 ans.
Voilà. Et bon, c'est tout. Hein, voilà.
Ah non, ça, non, c'est pas terminé, c'est pas
vrai. Non, je m'arrête là. Hein. Mais
et donc, c'est un film social anglais, c'est ça?
Bah, c'est assez marrant. Donc, en fait, t'as cette opposition donc entre les deux frères, hein, qui somme toute assez classique. C'est des trucs qu'on a déjà vus par le passé. Mais évidemment, bah, le prolo va venir par une suite de quiproquos, va venir se réimplémenter dans la vie de l'espion et lui pourrir la vie, mais en même temps lui rappeler d'où il venait, quoi, parce qu'il avait complètement mis ça de côté. Et donc, c'est vrai que ce que tu viens de dire, c'est un petit peu le point de départ, on va dire, la note d'intention visuelle du film, qui souligne un petit peu l'univers des personnages. C'est d'un côté, on a Sacha Baron Cohen qui s'inscrit dans un univers un petit peu à la Ken Loach, hein, assez naturaliste.
Vas-y, continue.
Ouais, mais on va voir après ce qu'il en fait, évidemment.
Ken Loach, ouais.
J'ai bien parlé de point de départ. Non, mais c'est cet univers-là, en fait, hein, vraiment, de prolo, des faubourgs.
Enfin, la première scène du film, c'est donc le personnage de comment il s'appelle, de Sacha Baron Cohen, qui couche avec sa femme, qui est interprétée par Rebel Wilson à l'époque où elle était encore en surpoids, quoi. Mm-hmm. Et en fait, ils sont en train de baiser au ralenti, là, comme dans un clip de je sais pas, de Boys to Men ou je sais pas quelle connerie, quoi, tu vois. Et en fait, ils sont en train de tester le matelas qu'ils vont acheter dans le magasin d'à côté, quoi. Ouais. Donc, pas trop du Ken Loach, non.
Non, mais je veux dire, après, dès que tu vois le personnage en situation, avec sa famille, son bled, ça évoque ça. C'est ce type de décor, ce type de personnage, de prolo, justement, anglais. Et à contrario, t'as en parallèle les scènes avec Sébastien, je crois, le frère donc, qui est joué par Mark Strong. On va y revenir sur Mark Strong aussi. Mais du frère, donc, qui lui, alors c'est même un univers visuel de jeu vidéo, quoi. Hein, t'as, avec,
ouais, bah, t'as, carrément, il fait une vue FPS. Voilà. Bon, ça, on va en parler aussi de cette scène, ouais.
Voilà. Mais t'as trois sortes.
En fait, l'une des raisons pour lesquelles on en parle dans Stéroïdes, c'est qu'il faut le dire, c'est contrairement par exemple à Borat ou à Bruno ou ce Dictator, on aurait pu vraiment par des voies détournées en parler un peu dans Stéroïdes. Là, c'est une parodie de film d'action aussi. Hein. C'est-à-dire que voilà, c'est pour ça qu'on en parle.
Ouais, clairement. Et puis ça part de ça. Après, t'as trois univers visuels que dans le film. T'as c'est les deux qu'on vient de citer et les scènes d'action justement. C'est un petit peu pour ça qu'ils sont allés chercher Louis Leterrier, le cinéaste, les producteurs. Mais et puis t'as aussi des flashbacks. Alors là, qui font un petit peu Angleterre old school. Tu vois, avec c'est l'enfance. Souvent des scènes très émouvantes.
T'exagères un peu.
L'enfance des.
Ah oui, dans les autres films, tu veux dire, pas dans celui-là.
Non, mais l'enfance des deux frères, justement. Non, il y a des scènes touchantes où les gamins, ils sont. Donc, ils quittent leur domicile familial, tu vois, ce genre de choses. Mais c'est ça qui est génial, c'est que l'humour, en fait, après, dans le présent, vient souvent désamorcer. Et du coup, ça fait.
Ouais, et puis c'est des scènes un peu rentrées aux chausse-pieds, moi, je trouve ça. En fait, c'est-à-dire que, en gros. Là, tu vas un petit peu vite en besogne, hein, je pense, dans la construction du film. Mais moi, je pense que il faut savoir un truc, hein, c'est que Louis Leterrier, d'abord, est un énorme fan de Sacha Baron Cohen. Apparemment, il aurait vu Borat une dizaine de fois en salle à l'époque où c'est sorti, quoi. C'est ce qu'il disait. Et il serait rentré dans le projet par le biais de Isla Fisher, qui est la femme de Sacha Baron Cohen, qui est dans, comment dire,
Insaisissable.
Dans Insaisissable, son film précédent. Donc faut quand même, parce que faut recontextualiser, quoi. Insaisissable, énorme carton qu'on doit à Louis Leterrier, en fait, à proprement parler, parce que bon, en l'occurrence, c'est pas un film de studio, enfin c'est pas un film de studio au sens ce n'est pas une franchise, ce n'est pas, voilà, c'est un vrai film, en fait, en solo, qu'il a mené tambour battant, quoi. Moi, je sais que toi t'aimes bien le film, moi je suis pas grand fan de ce film là quoi, mais en tout cas il sort de ce carton assez inattendu.
T'avais un
assez
gros casting après, quand même.
Voilà, t'as un très gros casting, mais c'est il sort de ce carton assez inattendu, quoi, assez surprise, quoi, et il se jette dans ce projet. Il faut quand même dire que c'est un projet complètement banque, quoi, voilà. Et donc, en fait, quand tu parles de ces scènes d'émotion, oui, enfin, c'est des petites scènes comme ça, un peu rentrées aux chausse-pieds dans le montage du film, qui est très court, hein, il fait 1h20, le film, quoi, et qui, bon, moi, je ne trouve pas particulièrement émouvante, quoi, si tu veux.
Alors, ça m'a plutôt bien plu, ces scènes-là, mais encore une fois, ce qu'ils en font... regard du film entier, quoi. Et souvent la résonance qu'elles ont dans les scènes du présent, quoi, on va dire, c'est-à-dire avec Sacha Baron Cohen et Mark Strong. Je sais que par exemple à un moment t'as une petite scène comme ça où ils arrivent dans leur famille d'accueil, je crois, et où le petit frère, donc qui est le personnage que va devenir Mark Strong, lui dit: est-ce que je peux prendre le lit du dessus? Donc c'est des trucs de vie quotidienne d'enfants, quoi, tu vois, qui organisent leur univers, tu vois, et c'est touchant parce qu'ils sont encore une fois déphasés de leur cadre habituel, ils viennent de quitter leur famille, tout ça. Et en fait, plus tard dans le film, t'apprends dans le présent que Mark Strong faisait régulièrement pipi. Son frère qui était en dessous, Sacha Baron Cohen, se faisait littéralement pisser dessus toute la nuit, quoi. Non,
c'est complètement trivial comme truc.
Ouais, mais c'est marrant parce que voilà, t'as des trucs encore une fois qui jouent la carte de l'émotion et qui prennent une autre couleur un peu plus tard quand il les réutilise. Et régulièrement, il fait ça parce qu'en gros, t'as le ça sert à montrer aussi comment l'univers du personnage c'est Nobby, je crois, le personnage joué par Sacha Baron Cohen, contamine peu à peu tout le reste, quoi, tu vois, quoi. C'est-à-dire l'univers high-tech et action de son frère contemporain, leurs souvenirs qu'ils ont en commun aussi, et c'est lui qui ramène tout le film. Et là-dessus, moi, je trouve le film intéressant parce que justement, ça part du concept dont on parlait, c'est-à-dire le frère de James Bond, et on part d'un univers d'action, d'un univers orienté sur l'espionnage, le côté high-tech, et pour être peu à peu investi par le, c'est-à-dire James Bond va être peu à peu contaminé par son frère, quoi, et qui devient le véritable héros de la saga, quoi, enfin du film, même si pour autant il néglige pas le personnage du frère qui est vraiment traité et puis incarné avec quelle maestria, quoi.
Non, mais alors, parce que là,
passer aux choses sérieuses.
Non, mais c'est qu'à un moment donné, t'en parles comme si c'était un film, un Ken Loach un petit peu travesti, quoi, avec un petit peu d'humour, par l'humour de Sacha Baron Cohen, finalement, somme toute, rentré dans les mœurs, tu vois.
Mais non,
en fait, pas du tout, c'est pas ça.
On va parler du côté complètement fucked up, mais à la revoyure, moi, en revoyant le film, la première fois, j'étais tellement éclaté au sol avec les barres de rire et tout, quoi, que j'avais pas forcément.
Là, t'as analysé. Il faut que je l'analyse pour stéroïdes.
Non, mais honnêtement.
Faut que j'en fasse l'exercice.
Je me suis surpris à me dire c'est plutôt bien pensé le film, quoi, en fait, quoi, d'un point de vue émotionnel, c'est plutôt bien pensé. Parlons du cœur du film, en fait.
Du cœur du film, des couilles du film, parce qu'en fait c'est quand même le non moi ce que je trouve, donc enfin ce qui est bon, je veux dire, les gens qui ont vu Grimsby normalement en fait se disent mais de quoi ils parlent en fait depuis tout à l'heure là, c'est-à-dire qu'à un moment donné ils sont en train de tourner autour du pot, tu vois, et il faut arrêter de tourner autour
du pot. On prépare notre effet.
Voilà, exactement, tu vois. Mmh. Les gens qui n'ont pas vu Grimsby se disent ah ça a l'air intéressant ce petit Ken Loach avec un petit peu d'humour graveleux là, tu vois. Non. Faut vendre ce que c'est, quoi. Faut vraiment dire ce que c'est, quoi. C'est, je pense, sincèrement, le film le plus graveleux possible, en fait, que Sacha Baron Cohen ait pu faire, quoi. Sachant que, bon, voilà, Sacha Baron Cohen, il faut un petit peu recontextualiser aussi.
Mais déguisé en blockbuster, en plus, c'est ça qui est...
Oui, alors, blockbuster, il faut préciser que c'est quand même un film qui a torpillé la carrière de tout le monde aussi. C'est ça qui est c'est un très beau suicide artistique et commercial, mais c'est aussi la raison pour laquelle on l'aime, en fait, ce film, quoi.
Ce qui fait partie du suicide aussi, justement, c'est que, en fait, les précédents films de Sacha Baron Cohen, la plupart du temps, les comédies, comme ça, les comédies graveleuses, les Borat, les Bruno, tout ça, c'est des trucs où il y a écrit sur l'affiche, en gros, ça va être un truc graveleux, tu vois, quoi. Là,
tu veux dire, c'est vendu comme Austin Powers, quoi.
Mais voilà, ouais, comme un James Bond rigolo, comme Austin Powers, en l'occurrence. Et l'affiche, c'était ça. Je me rappelle où tu les voyais tous les deux sauter comme ça. Et
c'est un des genres le plus détourné, en fait, le film d'espionnage. Hein. C'est-à-dire que, voilà, à un moment donné, en gros, c'est tous les tropes, en fait, de films d'espionnage ont été, remis dans tout un tas de comédies, etc., etc.
Voilà.
Je veux dire, mais dès les années 60, hein, les films comme Flint et tout ça, c'était déjà ça,
ouais,
quoi.
Tout à fait. Voilà. Et donc, ça s'inscrit dans ce cadre un petit peu déjà.
Donc tu pourrais croire que bon, ça va, c'est un film normal, quoi.
Voilà. Putain. Et après, bon, le film, il est pas le seul à il y en a eu d'autres avant lui à tenter le fait d'aller dans le registre du graveleux comme ça à l'intérieur d'un genre bien précis. Et de repousser un peu les limites. Hein. On peut parler de Marie à tout prix qui avait fait ça sur le mode de la comédie romantique, et les Farrelly sont devenus un peu spécialistes de ça. Ou effectivement à l'époque quand on voit en salle la scène du shampoing au sperme, t'es là tu te dis oh putain quand même et tout, on n'avait pas vu ça.
Le premier plan dans Marie à tout prix qui est vraiment en fait te dit ok là on a passé un cap en fait dans ce genre de comédie, c'est quand il se coince les couilles dans la braguette, et que pendant il joue quand même sur l'effet de est-ce qu'on va le voir, est-ce qu'on va pas le voir, et là t'as un très beau gros plan sur la couille en fait complètement coincée dans la braguette, quoi, et tu dis ah oui d'accord, et là c'est ils ont joué leur effet à fond, quoi, et en fait t'exploses de rire parce que tu pensais vraiment que t'allais pas voir ça.
Voilà.
Grimsby fait beaucoup ça aussi, c'est vrai.
Ouais. Et puis Grimsby.
Avec une maestria, il faut le dire quand même assez, assez. Parce que c'est ça le truc, c'est-à-dire que, en gros, quand tu te lances dans un film comme ça, t'as les films de Sacha Baron Cohen d'un côté qui sont, bon, si je mets de côté, le premier, là, Ali G, tu vois, qui était assez, assez finalement. Mal reçu en dehors de sa sortie en Angleterre, quoi. Nous, c'est sorti en salle, mais c'est vraiment été bazardé. Le reste, en fait, c'est des espèces de mockumentaires, comme ils disent, tu vois, c'est-à-dire des trucs où il se met dans une situation avec des vrais gens, et en gros, il fout un peu le bordel. Là-dessus, il est suivi par Larry Charles, qui est un habitué de Seinfeld et de Curb Your Enthusiasm. Et ça a été la formule de Sacha Baron Cohen sur quasiment trois films, quoi. Deux ou trois films. Et en l'occurrence, quand Grimsby arrive, même s'il y a eu Le Dictateur, qui est un vrai film de fiction, ça c'est en prise réelle avec des sujets, existants. Là, Grimsby, c'est effectivement, ils ont besoin d'un réalisateur comme Louis Leterrier, qui connaît le cinéma d'action, qui a une énorme technicité, qui va te faire, comme cette scène d'ouverture là, d'action en POV là, et qui l'a fait, à mon sens, 100 fois mieux que le film qui était sorti quasiment en même temps là,
Hardcore Henry,
qui était à chier, quoi, tu vois, et qui jouait cette carte là sur tout le long métrage, quoi. Moi, en une scène, il fait le truc 100 fois mieux que ça, et ça fonctionne très bien, et en plus c'est une vraie scène d'action. Tu regardes ça, tu te dis, bon, ok, voilà. Même s'il y a un petit peu d'humour dans la scène de temps en temps, voilà. Donc moi, quand je me lance dans le film, et que je vois que c'est Louis Leterrier, je me dis, bon, c'est quelqu'un qui a cette technicité absolument incroyable, qui va normalement, mener le récit tambour battant. Est-ce qu'il a un vrai sens de la comédie? Ça reste à définir. Est-ce qu'il va pas un petit peu tempérer Sacha Baron Cohen, parce que c'est quand même Louis, c'est quand même aussi le mec qui fait les films, beaucoup de films de studio, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, tu te poses la question. Et non, en fait, c'est l'inverse. Les mecs, ils s'engrènent totalement dans leur truc, quoi, et ils partent en cacahuète, quoi. Donc toi, la première scène qui t'a fait juste tomber par terre, c'est donc cette scène où Mark Strong est contaminé par une fléchette empoisonnée.
À l'épaule
d'abord, pour commencer. Donc en fait, il y a déjà toute une conversation en fait où il demande à son frère de lui sucer en fait le sang, le poison en fait hors du système. Et t'as l'autre qui fait non, mais tout hooligan qu'il est, tu sais qu'il y a des gens qui se sont fait lourder de Grimsby.
Hein.
Voilà, tu sais qu'il y a des gens qui se sont fait lourder de Grimsby. On va passer pour des homosexuels, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Et l'autre il lui dit ouais, mais dans 30 secondes je suis mort, donc fais-le. Et donc là il lui suce le sang. Bon, tu te dis ok, c'est normal, machin, etc., etc. Et arrive après. Donc la révélation suivante, c'est qu'en fait, il y a une autre fléchette qui l'a touchée, littéralement.
Il y a une autre fléchette, et là, tu vois, là, avec la musique grave, là, tu vois la caméra qui descend sur les couilles avec la fléchette quand même. Voilà. Et là, tu te dis, enfin, tu ne sais pas ce que tu vas voir, tu n'es pas prêt. Parce que c'est vrai que tu as toujours cette logique, je parlais de Marie à tout prix tout à l'heure, il y a eu d'autres films depuis, mais d'essayer de repousser de plus en plus les limites, tu vois. Après, tu bascules dans une démarche où il faut aller toujours plus loin, tu vois, pour sidérer le spectateur. Et là, ils y vont pas de ma morte, quoi.
C'est le cas de le dire.
Ils y vont pas de ma morte, parce que d'entrée, Louis Leterrier, il fait un plan en contre-plongée avec la couille de Mark Strong qui est sorti.
Qui sort du caméra,
quoi, tu vois, quoi. Donc, et puis alors, ouais, non, mais.
C'est vrai, il a cherché le plan scientifiquement parfait pour que tu comprennes l'enjeu. Voilà. Mais c'est ça aussi le truc. C'est qu'en fait, ça fonctionne comme ça. Tu fais, oh putain, qu'est-ce qui va se passer, quoi.
Ouais, et puis je pense en salle, quand t'as ça sur l'ordre des gants, ça doit être.
Ouais.
Mais et puis il faut parler un peu, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il faut parler un petit peu de Mark Strong quand même, quoi. Mark Strong, alors quand cette scène débute, Mark Strong, c'est un acteur quand même souvent donc acteur anglais, assez raffé, assez charismatique, qui est souvent employé dans des rôles de méchants un petit peu aristocratiques comme ça. On se rappelle de lui dans John Carter par exemple, ou son rôle un peu plus important aussi dans les Kingsman, quoi. Le rôle de Merlin, de l'agent Merlin, voilà.
C'est la classe british avec une certaine badassitude, quoi.
Voilà. Pour que cet acteur-là, quoi, qu'on est habitué à voir dans un type de rôle bien précis, sorte sa couille comme ça sur la caméra.
Déballer le service trois pièces.
Ouais, quand on voit la couille de Ben Stiller, c'est Ben Stiller, quoi. Tu vois, quand même.
C'est une comédie, c'est un comique, quoi.
Là, c'est bon, je dis pas que c'est Sean Connery non plus, tu vois, mais c'est Mark Strong quand même.
Michael Caine, tu sais, ta
canne. Et cette scène-là, bah, on bascule dans le n'importe quoi le plus total, quoi. Où il y a, enfin, t'as un...
Mais avec joie et bonne humeur, Arnaud.
Ouais, ouais, bien sûr. Mais t'as... ce plan où il est qui est un plan en couple latéral où tu vois.
Attends, non, parce qu'il faut le dire. Donc en fait, il lui dit, mais attends, faut que tu suces le poison en fait de ma couille, quoi. Okay. Et l'autre, en fait, il se retrouve à le faire. Tu vois. Et donc la scène, elle est complètement fucked up. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Donc là, t'as Arnaud qui tient plus. Il tient plus debout. Ça y est, c'est terminé.
T'as ce plan où il est de profil, il est là, circuit. Et il est. Donc il est cul nu.
Pour ceux qui ne voient pas, Arnaud, il a fait un peu le geste.
Il est cul nu en soupule. Il tient le mur. Il...
Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est...
Il en...
Un très beau plan de cinéma.
Allez, reprends ton micro. Le bien devant toi.
Il est en train littéralement de s'essuyer les burnes. Sur la gueule de Sacha Baron Cohen, quoi. Non, mais...
Au ralenti. À un moment donné, t'as un espèce de ralenti grave et tout, tu sais. Oui, oui, il y a le truc. Et bon, tu vois que c'est quand même une burne hyper grossière et tout, tu sais.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai que cette scène est donc la première fois que... Donc moi, j'ai vu le film avec... comment,
ça dure longtemps.
C'est clair, attends.
Il y a plein... Parce que là, c'est un plan, mais après, il y a plein d'autres plans. Il y a des positions différentes. Mais
c'est surtout, j'ai vu le film avec, avec Julien et Gab, donc on était déjà morts de rire, tu vois, cette scène, quoi. Mais en fait, c'est en le revoyant... Mais moi, c'est presque... Parce qu'il y en a tellement d'autres des scènes derrière, mais complètement autres, quoi. Que tu vois, en voyant ce... En fait, j'avais presque oublié ce truc. Parce que à la limite... Ce genre de gag, en fait, si tu veux, sur deux personnages hétérosexuels qui se retrouvent, en fait, dans des positions, tu vois, homosexuelles et tout, bon, ça a déjà été fait, tu vois. Pas aussi, appuyé, quoi, mais ça a déjà été fait, tu vois. Donc j'avais oublié, et c'est en le revoyant avec toi, où je t'ai vu tomber par terre, sans connaître le reste du film, en plus, si tu veux, qu'elle est arrivée, quoi, que je me suis dit, ah ouais, oui, donc cette scène, elle fait vraiment, tu vois.
Ouais, c'est hallucinant, et puis c'est surtout pour.
Mais c'est presque une scène normale à côté du reste, c'est ça le truc qui est ouf, quoi.
Pour ce que je voulais dire sur Mark Strong aussi, c'est que là, Sacha Baron Cohen, t'es habitué à le voir quand même faire des
conneries. Son emploi, ouais.
Ouais, mais Mark Strong,
il fait caca devant le World Trade Center, mais il fait caca dans le quartier financier de New York, ouais. Dans Borat, tu vois.
Et Mark Strong, là, tu te dis clairement, quand tu vois la scène, je suis en train d'assister à un crash de carrière, quand même, un suicide.
Mais je pense qu'ils se sont tous engrainés là dans leur affaire, parce que Mark Strong, il y va, hein. Ah, oui. Ah lui, il s'en fout, là, il est à fond dans le film, hein, tu vois. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas un moment donné où tu te dis, tiens, tu vois, là, tu vois qu'il hésite pas. Non, il est, tu vois, qu'il hésite, quoi, il hésite pas.
Ouais,
il
bah après, je pense que une fois qu'il a décidé qu'il le faisait, voilà, c'est un bon acteur, tu vois, enfin, il va jusqu'au bout de son truc. Mais c'est vrai que, bon, voilà, scène hallucinante, quoi. Et quand elle se termine, on n'a encore rien vu.
C'est ça, le truc, c'est que, parce que donc, le film avance, le récit avance. En gros, il y a quoi, ils veulent faire sauter. En fait, il y a une espèce de complot dans l'idée. On dévoile le poteau rose.
Oui, il y a un complot. Il y a une sorte de complot par des qui est marrante avec le recul, parce que le film date de 2007, mais qui est très
2016.
Proche. Hein?
2016.
2016, j'ai dit. Ouais.
Ah, j'ai entendu 2007.
Non, ouais, non, ouais. 2016. Et bon, qui est une année charnière dans l'histoire américaine récente. Mais c'était.
C'est... Bah, ils en parlent. En fait, c'est évoqué dans le truc. Enfin, c'est évoqué clairement. À demi-mot, quoi.
Et le film, dans ses antagonistes, dans les méchants, là, fait pas mal penser à pas mal de théories pointées comme des théories complotistes, tu vois. Sur des élites mondialistes, donc qui est incarné par Penelope Cruz, qui est une sorte de démocrate bontain, qui dorme dans le charity business, tu vois. Elle dit à un moment, elle dit yes I can, je crois, tu vois, des trucs comme ça. Enfin voilà, elle est présentée comme ça, et il va s'avérer qu'en fait c'est une méchante à la type James Bond, là, qui
le monde, en fait,
voilà. Et c'est pour ça que je parlais de thèse complotiste, qui veut répandre un virus à l'échelle de la planète entière afin d'en diminuer la population de manière drastique, quoi, tu vois, quoi. Voilà. Et
pour le bien de la planète,
ouais, pour le bien de tous. Et donc voilà, donc c'est une intrigue d'espionnage qui renvoie, comme je le disais, à beaucoup de plans machiavéliques, de grands méchants bondiens, quoi. Et eux vont venir comme le surtout à l'instigation de du rôle joué par Sacha Baron Cohen, mais comme le grain de sable dans la machine pour évidemment enrayer tout ça, quoi. Bon, après c'est un argument, ça va pas plus loin que ça, quoi, tu vois.
Non, non, bien sûr.
Mais c'est vrai qu'après il y a.
Et puis ça colle au personnage parce qu'il y a quand même ce truc en fait où le personnage de Nobby, si tu veux, c'est un crétin. Hein. Littéralement, il a 12 gosses, je crois, ou un truc comme ça. Il les appelle en fait suivant la mode du moment. Skeletor, il y en a. Il s'appelle Skeletor, c'est le grand. Donc tu comprends que le grand, il est peut-être né à la fin des années 80, début des années 90, tu vois. Et ensuite, comment dire, le plus jeune, il s'appelle Gangnam Style ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, ils ont tous des noms à comment dire qui viennent de trucs qui ont cartonné sur YouTube ou dans la pop culture, quoi. Et comment t'appelles ça, sa femme, en fait, elle lui fait une position. Comment dire, à un moment
Django
donné.
Django Unchained aussi.
Ah ouais, il y en a qui s'appellent Django Unchained, c'est vrai.
Il s'appelle pas Django, il s'appelle Django Unchained.
Comme le film de Tarantino, quoi. Et en fait, t'as sa femme, en fait, qui fait des positions à la Basic Instinct où elle dit Sharon Stallone, ou je sais pas quoi. Vraiment, c'est des teubés, quoi. Et des énormes. Enfin, lui, c'est un gros fan de foot, donc ça se passe sur un stade de foot à la fin pendant la Coupe du Monde ou un truc comme ça, quoi.
Au début, avec ses amis supporters, dans le pub, avec tous ceux qui ont les seconds rôles, là, qui ont des têtes.
Bah, il les engraine. En fait, les engraines, il leur dit ouais, il a dit du mal de Manchester, ou non, il a dit du bien de Manchester, ou je sais pas quoi. Puis en fait, ils partent défoncer les comment t'appelles ça, les CRS qui viennent les chercher, quoi. T'as tout un tas de trucs comme ça, quoi. Mais donc ouais, en fait, c'est enfin, tu peux concevoir que les théories, comment dire, du complot, si tu veux, dont tu parles, c'est des espèces de logiques qui viennent aussi de son esprit à lui, à ce personnage-là, quoi. Parce qu'en fait, lui, il y croit à ces trucs-là, il adhère à tous ces trucs, quoi, tu vois. Donc, c'est pas incohérent que ça soit utilisé dans ce film-là, je trouve, tu vois.
Ouais, mais après, bon, le film regarde quand même, il faut le dire, hein, il y a une volonté satirique, quoi. Mais en même temps, il y a une grande humanité avec laquelle il regarde ces personnages.
Ouais, il les aime bien. Ouais,
ouais, ouais, ouais. C'est quand même des personnages auxquels tu t'identifies émotionnellement et qui représentent en fait le personnage de Sacha Baron Cohen sous ses dehors que prolo, déjanté, trash complet et tout, représente le cœur émotionnel vers lequel le personnage de Sébastien, là, du frère, va devoir revenir, quoi, parce qu'il a oublié tout ça, il l'a mis de côté, quoi. Donc voilà. Mais
grand film international, parce qu'en fait ils partent un peu partout dans le monde, quoi. Dont ouais, la savane en Afrique. Et ça, il faut en parler, parce qu'en fait on.
Oui, bah alors voilà. Effectivement, c'est bon. Je crois que t'as une ou deux autres scènes, peut-être.
Graveleuse.
Ouais, Graveleuse. Oui, Cabreuse, t'as parlé de la scène d'amour avec Rebel Wilson. Elle est quand même corsée, cette scène, quoi.
Oui, mais c'est rien.
Je crois que l'actrice avait dit que c'était l'un des trucs les plus dégueulasses qu'elle ait jamais tourné, quoi.
Ouais, c'est pas, enfin, tu vois, je veux dire, c'est la première scène du film, donc quelque part. L'autre truc,
quand je parle plus tard sur le canapé.
Ah oui, non,
t'as les cartes, les jambes là, et puis
et qu'elle achète une perle ou je
ouais,
peux
ouais, et puis que lui il y va pour
ouais, mais bon, ça voilà, tu vois, c'est presque, tu vois, c'est des paix, c'est des machins, c'est des gens qui baisent, tu vois, c'est presque normal, tout ça. Tout ça, c'est presque, tu vois, c'est voilà, c'est un film normal, tu vois.
Mais
ouais, vas-y. Parce qu'il y a une autre scène de sexe dans le film, en fait, qui est quand même peu plus poussée.
Ouais, mais voilà, on va y venir. Mais juste avant, je voulais terminer sur le contexte film d'espionnage. Du coup, on a évoqué justement le 2016. Alors, parce qu'il faut quand même le film. On va faire une petite parenthèse là-dessus avant de venir sur le bouquet final, hein, Stéphane. Mais le film a eu des problèmes. Le film s'est planté et le film a eu des problèmes précisément à cause d'un running gag qu'il y a dans le film. Autour de la contamination de Donald Trump par le sida. Alors il y en a un autre
via Daniel
Radcliffe,
qui est même pas joué par Daniel Radcliffe, qui est joué par un sosie qui est en plus pas hyper ressemblant, je trouve.
Et
je pense qu'à ce niveau-là, autant jouer la carte jusqu'au bout, tu vois.
Voilà. Et en fait, on est en 2016, l'élection présidentielle n'a pas encore eu lieu aux États-Unis. Et en fait, il va y avoir apparemment une grosse peur du studio, parce qu'il y en a qui vont se dire, attendez, on est en train de faire une blague comme ça, là, sur le prochain président des présidents des États-Unis. Donc, apparemment, en interne, ça a été un gros problème, cette histoire. Bon, aujourd'hui, ça ne le serait plus, je pense, mais à l'époque,
ouais,
ça a été.
Je sais pas jusqu'à quel degré les mecs, en fait, ils protègent leur miche, quoi, mais bon.
Ouais, bah écoute. Mais en tout cas, là, ça l'a été. Et ça aurait même éventuellement peut-être obéré la sortie du film, quoi. handicapé la sortie du film. Il y a des médias qui ont dit que ça a été assez étonnant, notamment en Amérique du Nord, où le film ne semblait absolument pas soutenu par le studio, qui avait pas de campagne médiatique dessus, alors que c'était quand même un assez gros film avec une grosse star, tu vois, qui venait signer plusieurs succès. Donc le studio globalement aurait un peu lâché le film dans la nature et n'en serait pas très fier, quoi. Bon, ça tient peut-être à d'autres trucs aussi qu'il y a dedans et on va en parler encore une fois.
C'est pas le seul truc.
C'est pas le seul truc, mais voilà. Et je crois que aussi un peu partout, il y a eu très très peu de projections de presse, voire dans certains pays aucune, quoi.
Nous on l'a vu en projection de presse.
Ouais.
Nous en France, en tout cas.
En France, il y en a eu, mais je sais que dans les pays anglo-saxons, par exemple, ça a été très compliqué de le voir pour la presse. Enfin voilà, c'est un film qui a été un petit peu, qui a fonctionné un peu comme du poil à gratter dans le pour son studio, quoi. Et donc, effectivement, comme on le disait à l'instant. Et on va raccorder donc sur ce dont on allait parler, peut-être pas uniquement pour ces raisons-là, parce que effectivement, oui, c'est un film qui va très très loin. Et
surtout, moi, enfin, on en arrive à un truc, tu vois. Donc, t'as ce moment en fait où en gros, le personnage de Nobby, le personnage de Sébastien, en fait, de Mark Strong, au lieu de prendre en fait un puissant médicament là qui lui permettrait de faire sa mission, en fait, se retrouve à prendre de l'héroïne ou je sais pas quoi. Et en fait, il est complètement chelasse et en gros, pour la première fois de sa vie, tu vois, et il se retrouve en fait à ne pas pouvoir faire sa mission, c'est-à-dire aller séduire une nana pour avoir une information, etc., etc. Donc ils envoient Nobby à la place, qui donc lui est le beauf de service, quoi, et qui en fait donc va draguer la nana en question, déjà se gourer complètement. Donc on l'envoie dans une espèce d'hôtel 5 étoiles en plein milieu de la savane, là, tu vois. Il doit aller draguer cette actrice là, Annabella Wallis, en fait, qui est une très belle femme, en fait, qui joue dans La Momie avec Tom Cruise, là, et en fait donc lui, c'est pas du tout son truc, quoi. Lui il la confond, parce qu'on lui dit elle a une robe verte, donc il la confond avec Gabourey Sidibé, qui était l'actrice de Précieux. De Precious, hein, une actrice
qui a un rôle hallucinant, une sorte de Nafissa Tou Diallo, là, parce que
c'est ça, évidemment. Mais complètement.
C'est la scène d'amour avec elle qui va faire repérer Sacha Baron Cohen par les services secrets, quoi. Donc c'est vraiment, tu te dis putain, mais on est en plein DSK là.
Non, mais complètement.
Et la scène est hallucinante là aussi.
C'est hallucinant parce que donc.
Trois plans.
Donc en fait, lui. Il se met en mode séduction. Le mode séduction de Nobby, donc de Sacha Baron Cohen, c'est prendre la voix de Sean Connery, avoir une espèce de col roulé pourri, mais en slip et tout, là, tu sais. Et il commence à faire le mec suave, alors qu'en fait, il ressemble à rien, quoi, tu vois. Et effectivement, en fait, elle lui tombe dedans parce que, voilà, tu vois, et en fait, t'as un plan, à un moment donné, t'as un plan énorme sur bah, bon, évidemment, je pense que c'est pas elle, tu vois, mais sur l'entrejambe de l'actrice, quoi. Et tu dis, putain, mais c'est la nana qui a été nommée aux Oscars pour Precious et tout, quoi.
Qui se fait littéralement bouffer les fesses par Sacha Baron. Voilà,
et surtout, dans un espèce de quiproquo de séquence où, en fait, il a eu la chiasse avant, il est allé aux toilettes, et il dit à l'autre nana qui considère comme la, comment t'appelles ça, la bonne, là.
En fait, il lui dit. T'as un dialogue à double sens.
Sur la dureté de la crotte.
Voilà, où elle pense parler de son sexe, alors que lui, il pense qu'elle parle de sa crotte. Donc, ouais, à un moment, à la fin, il lui dit, mais vous êtes complètement déviante, en fait. Et c'est lui, c'est ça qui est génial, d'ailleurs, moi, c'est le truc qui m'a fait le plus rire dans cette scène. C'est la réplique de Sacha Baron Cohen, parce que le personnage, quand tu vois ce qu'il fait depuis le début, il dit, mais vous êtes complètement déviante, en fait.
Bref, voilà. Et donc, en fait, t'as tout un truc autour de ça. Ils se font repérer. Grosse scène d'action, il faut se planquer dans la savane. Putain, comment on se planque dans la savane? On peut pas trouver, il n'y a pas d'endroit, quoi, tu vois. Et là, t'as Nobby qui a une idée. Il voit, parce qu'il regarde des documentaires animaliers, c'est présenté au début, tu vois. Donc, comme quoi, c'est pensé comme film, tu vois. Et il se dit, on va se cacher dans l'utérus de la femelle éléphant.
Oui, parce qu'il a entendu dire que l'utérus de la femelle éléphant, surtout en période de chaleur, était gigantesque.
Voilà, donc ils se sont dit, on peut se planquer à deux. Ce qu'ils font, les mecs vont se planquer, littéralement, déjà.
On le sait pas tout de suite, on voit le troupeau d'éléphants, on a pu éventuellement le déduire par l'ellipse, quoi.
Non, mais t'as le chausson de l'hôtel là, qui tombe par terre, tu sais, qui tombe des trucs et tout, quoi. Et donc,
on découvre que Mark Strong et Sacha Baron Cohen sont enfermés dans l'utérus de l'éléphant.
Mais moi, ce que je trouve génial, c'est que c'est super bien fait. Tu t'es totalement dedans, quoi.
Ouais, ça m'a rappelé un petit peu la scène finale même si c'était dans des proportions plus gigantesques, mais la scène finale de Calmos, en fait, de
Bartholomew.
Les personnages se retrouvent dans l'utérus d'une femme, hein, là, cette fois-ci, quoi. Donc, ce qui est techniquement impossible, par contre. Ouais.
Donc, là, c'est du surréalisme.
C'est un peu plus surréaliste, effectivement. Mais là, ça reste biologiquement crédible, semblable,
Semblable. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, t'as un éléphant en rut qui arrive avec une bite énorme et qui commence à pénétrer la femelle éléphant. Et là, t'as le plan de l'histoire.
Là, c'est la fin de tout, là.
Le plus beau plan de l'histoire du cinéma, je pense.
Et là, tu vois ça et tu te dis, ça y est, c'est fini, quoi.
C'est artistique, total. C'est
là, le film a quitté la planète Terre. Là, c'est-à-dire, tu vois les deux personnages bloqués dans l'utérus qui se prennent des coups de bite dans la gueule, cul.
Mais c'est surtout avec le mouvement de caméra qui suit, c'est le coup, quoi, tu sais, donc c'est hyper dynamique et tout, quoi, tu vois.
Ouais, et puis jusqu'à l'éjaculation, hallucinant. Ouais. Tu vois Mark Strong.
Non, mais c'est pas ça, c'est surtout qu'à un moment donné, t'as d'autres qui lui dit, pour que ça aille plus vite, il faut qu'on branle l'éléphant.
Ils branlent l'éléphant.
Non, mais tu ne peux pas le raconter, en fait. Tu peux pas raconter une scène
faut
comme ça.
Faut le voir pour le croire. Faut le voir. Et puis, tu te dis, avec des plans de Mark Strong, là, qui se prend la bite dans la gueule et tout, quoi, et puis qui après est recouvert de sperme. Enfin,
attends. Donc, le truc, si tu veux, c'est qu'il y a ce truc qui est génial, c'est que t'as un mec qui a écrit cette scène. Tu vois? Et là, t'as personne, en fait, personne qui lui a dit non, tu vas un peu loin. On peut pas faire cette scène, tu vois. T'as les autres qui ont fait OK, on va faire cette scène. Alors comment on va faire cette scène? Et là, d'un seul coup, t'as toute l'ingénierie qui s'est mise en place et tout pour créer tout le truc, quoi. Et là, moi, je me dis, putain, ça a pris combien de temps pour faire cette scène qui est quand même le clou du film, hein.
C'est le climax, quoi.
Voilà,
c'est...
En fait, je pense que c'est. On peut discuter de. Parce que ça va. Il y a encore des trucs, hein, derrière, évidemment, oui, tu vois.
Il y a le vrai climax dans
mais
le stade.
Mais honnêtement, je pense que c'est littéralement une scène où tu peux dire j'ai jamais vu ça. Probablement, je reverrai jamais ça, tu vois.
Ouais, je pense que quand t'évoques le film, quand les gens évoquent le film,
ils se rappellent de cette scène.
S'ils se rappellent pas qu'ils l'ont vu, tu leur dis la scène avec dans l'utérus de l'éléphant, et là ils vont te dire tout de suite ah mais oui.
Et puis c'est la sueur et tout, ouais. Qui remonte et tout.
Ouais, puis alors,
parce que c'est ça aussi le truc, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, donc t'as une scène comme ça, les mecs fabriquent, tu vois, je veux dire tout le tralala, ils ont testé des mixtures, je sais pas, etc. pour faire le sperme et tout de l'éléphant, tu vois. Enfin, t'as tout un espèce de truc comme ça. En fait, tu dis bon, il y a un
cinéma.
Voilà, c'est le cinéma, voilà, c'est un temps de fabrication absolument total. Tout ça pour aller à l'échafaud cinématographique, en fait, pour la beauté de l'art, quoi. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, quoi. Tu te dis, moi, je pense que cette scène-là, ils ont tous niqué leur carrière d'un seul coup.
Tant de cœur à l'ouvrage pour se cracher en flammes.
Et pour nous faire plaisir, tu vois, parce que moi, je revendique, en fait, si tu veux, la beauté du geste. Tu vois, c'est-à-dire le truc, le fait de se dire. Et je pense, en fait.
Un film kamikaze, hein.
Voilà, c'est ça. Et je pense, en fait, il y a ce truc où. Bon, moi, un mec comme moi, j'ai tendance à voir des films comme ça. Donc, ça m'a fait beaucoup rire. Je me suis dit, c'est quand même incroyable que les mecs aient fait ça, tu vois. Effectivement, même moi, je me suis dit ça. Mais je me suis pas forcément dit, c'est un suicide artistique avant que je me rende compte de la réception générale du film, quoi. Parce que, comment dire, c'est ça le truc. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, il y a un espèce de truc où Sacha Baron Cohen, en premier lieu, hein, tu vois, et je pense tous les gens qui ont travaillé sur le film derrière, que ce soit Marc Song, que ce soit Louis Leterrier, se sont dit, bon bah voilà, Sacha Baron Cohen, on sait qu'il fait de l'humour comme ça. On sait qu'il fait de l'humour graveleux. Et en fait, il a eu un énorme succès avec Borat une dizaine d'années auparavant. Plus modéré sur Bruno et sur Le Dictateur, mais malgré tout, en fait, c'était des vrais succès aussi de cinéma, tu vois. Et le questionnement, en fait, c'était, en fait, comment est-ce qu'on peut surpasser, on va dire, le côté graveleux de ses précédents films. Donc forcément, ils se sont engrainés, ils ont mis du cœur à l'ouvrage, quoi. Mais le truc, si tu veux, c'est que il y a le moment où il y a la bascule, quoi. Tu te dis non, mais là, tu lâches les gens, tu vois. Les gens, en fait, ne suivent plus, quoi. Malheureusement, hein, mon grand dame, quoi. Mais c'est vrai que, tu vois. Donc, tu peux pas savoir si c'est, après, tu vois. Je pense qu'il y a un côté inconscient total, en fait, quand ils ont fait le truc, qui est assez génial aussi.
Après, le film n'arrête pas. Alors, avec bon, évidemment, ça date de 2016, donc le film, il a quoi? Il a 7 ans, tu vois.
À 7-8 ans, ouais.
On répète souvent cette phrase, tu vois. Aujourd'hui, on ne pourrait plus faire le film, mais c'est vrai, quoi. T'as des gags à la convention, là, au début, quand il y a une pancarte avec un gamin de 10 ans, il fait un trou dedans, et puis il passe son doigt et il fait la bite du gamin qui se lève quand il y a une gamine qui passe et tout. Enfin, c'est des trucs, ça passerait plus aujourd'hui, Steph. Maintenant, ça, les studios ne feraient plus des gags comme ça, c'est impossible. Ouais. Quand tu vois ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est moi, ça me semble être une évidence, hein. Donc c'est un film qui ne se refuse rien, mais jusque dans ses moindres petits gags, dingue, hein, et puis qui se dit bah pour effectivement exploser le truc, il faut mettre en place deux trois grandes scènes, hein, qui vont vraiment sidérer les gens, quoi. Et cette scène
c'est vrai que la sidération, c'est comme quand tu découvres Avatar la première fois, tu te dis qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre j'ai en train de me prendre le cinéma dans la gueule, là c'est pareil, tu
la
vois.
Scène des éléphants, j'avais oublié en fait le
gag final,
la conclusion, quoi. Ouais. C'est-à-dire en fait ça se termine en gangbang avec tous les éléphants qui arrivent, et donc les mecs ils se font
exclater, quoi.
C'est hallucinant. C'est vrai que tu vois la scène, alors t'es mort de rire.
Mais cette scène, c'est un peu comme la scène du débarquement dans Il faut sauver le soldat Ryan. C'est t'oublies le film après. C'est t'oublies, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé. C'est, je veux dire, j'ai pris un truc dans la gueule là comme ça, un espèce de truc qui m'a complètement, tu vois, putain, du cinéma total. Tu vois, et d'un seul coup, le film derrière semble normal. Tu vois, presque, tu vois. C'est, il y a un truc comme ça où tu te dis bon, et c'est quoi les gags derrière.
Alors après t'as le grand final qui fonctionne vraiment comme un vrai climax là dans le stade de foot. Parce qu'ils vont au Chili, je crois, même si c'est tourné en Afrique du Sud, mais ils vont au Chili dans une finale de mondial. Et donc t'as une grande scène avec à base de bon, t'as les gags finaux avec les histoires des missiles dans le cul et tout là.
Mais ça c'est le détail en fait qui est drôle, parce que bon, à la limite tu racontes que des mecs qui sont obligés de se mettre s'asseoir sur les missiles, donc en fait se foutre les missiles dans le trou du cul, tu vois, tu te dis bon ok, donc tu racontes ça, c'est pourquoi pas, mais c'est le détail, c'est la façon dont Mark Strong le joue. Il joue le truc qui lui pète
impliqué
la tête. Ah ouais, jusqu'au bout, tu vois. Mais
moi,
genre,
je pense
acteur
qu'il aurait mérité l'Oscar, quoi.
Non, mais c'est clair, acteur
suspirien. Évidemment,
quand il les retrouve à l'hôpital avec le trou de balle ouvert, comme ça, tu sais.
Moi, il aurait dû, Mark Song, il aurait dû recevoir l'Oscar de l'abnégation pour ce film, quoi. C'est-à-dire, je m'oublie totalement pour le bien du film.
Peut-être la seule occurrence de trou de balle numérique. Tu vois, numérisé, tu vois, parce qu'en fait, et donc j'imagine les mecs qui, encore une fois, qui doivent travailler sur le trou de balle numérique de Sacha Baron Cohen et de Mark Strong, c'est un truc,
ouais, quand t'as le plan, je pense que, moi je l'ai pas vu en salle, mais je pense que ça a dû pas mal réagir en salle, parce que tu vois le plan et tu fais, ah!
Moi, je me rappelle qu'on était un peu les seuls à rigoler avec Julien et Gabin.
Il est douloureux, ce plan-là.
Il y a quelques plans. Enfin, il doit y avoir quelques rires éparses, tu vois, un peu par. Enfin, tu vois, des ricanements, des machins, etc. Ça. Mais en fait, je me rappelle pas d'une salle explosée de rire, tu vois. Comme par exemple quand j'avais vu moi Marie à tout prix, comme tu le citais, quoi. Où là, les gens riaient vraiment de bon cœur et étaient totalement dans le film avec le film et tout, quoi. Là, pas du tout. Là, c'est.
Bah, c'est-à-dire encore une fois, ça avait beau à l'époque surprendre, voire même choquer. C'était juste un plan d'une couille dans une braguette. C'était l'idée qui était plus une idée, parce que visuellement, il y avait rien de phénoménal, mais l'idée de
la mèche,
dans les cheveux, tu vois, les trucs comme ça. Bon, ça restait acceptable. Là, graphiquement. Grimsby, les scènes dont on a parlé, ça repousse toutes les limites. C'est-à-dire, il y a pas une seule fois dans la scène de l'éléphant où tu te dis ah là ils se sont contenus. Ils ont mis
non,
des
mais
limites.
Même dans
là,
tout,
a... non, si on montre tout.
T'as cette scène où le personnage de Nobby, en fait, on lui met un flingue entre les mains. Et il se met à tuer tout le monde. Et en plus, il t'explique qu'il y a un détachement total, en fait, si tu veux, avec l'idée que quand tu tires, en fait, soit à bout portant ou un peu de loin, comme ça, t'as un détachement total sur la culpabilité que tu puisses avoir de tuer quelqu'un, quoi, tu vois.
Et
c'est marrant parce qu'il l'exprime de façon hyper, claire, nette.
Ouais,
et presque
idée,
intellectuel, hein. Si tu veux, alors qu'en fait le mec est con comme ses pieds, quoi, tu vois, et voilà. Et après, bon, tu vois, le truc, si tu veux, c'est que je te dis, t'en oublies presque que t'as quand même un combat entre lui et Scott Adkins, tu vois, que t'as quand même tout un tas de trucs comme ça dont normalement
Ben Affleck, ukrainien,
ouais, dont
pas
nous normalement dans Stéroïdes on devrait parler, mais en fait t'en passes tellement, tu sais, ça passe tellement comme ça, quoi, tu vois, voilà, quoi. Mais ouais, t'as tout un tas de trucs, ça c'est Louis Leterrier oblige, je pense, tu vois, il est allé chercher aussi des vrais cascadeurs, des vrais pour faire les scènes d'action, quoi. Mais le truc, si tu veux, c'est que ouais, c'est pas, tu peux pas retenir ça. Tu retiens
La scène de porno zoophile, quoi, parce que c'est ça littéralement, quoi. C'est littéralement dans un blockbuster une scène de porno zoophile. Et bon, je te dis, le film il se refuse rien, quoi. Il y a un moment, je crois, il dit au début aussi dans son bled là, il dit je suis, bah je crois que c'est la scène d'amour avec Rebel Wilson, et elle lui dit ouais, t'aimes ça et toi, et lui il lui dit je suis aussi raide qu'un pédophile à Legoland, toi. Ouais, ouais. T'as que des trucs comme ça quoi, il y a des blagues homophobes, il y a des blagues pédophiles,
ah,
y a
ouais,
des...
non, mais
je veux dire c'est un festival le truc quoi, donc ça peut être difficilement regardable aujourd'hui par certaines personnes, toi, mais si tu te laisses aller et que tu te dis ok j'y vais, je débranche tout pendant une heure et demie, c'est l'orgasme quoi.
Ouais, c'est-à-dire c'est la phrase que j'avais sortie à Thomas Rozek à l'époque, que j'embrasse hein. Tu vois, je lui avais dit, il avait explosé de rire, je lui ai dit c'est pas du Lubitsch tu vois le film, parce que c'est sûr que non, ça va complètement comment dire. Enfin, c'est ne regardez pas ça si vous vous attendez. Enfin, bon, je pense qu'on a été assez clair hein, sur tout ce qu'on a raconté, mais ouais, ne vous attendez. Enfin, regardez pas ça si en famille, quoi.
Mais, ouais, non.
Déjà,
non.
Tu vois.
Ouais, non. Moi, quand je l'ai revu pour l'émission, là, j'ai revu tout seul.
Sans tes filles.
Mais.
T'as essayé d'engrainer ta femme, mais ouais. Elle est pas venue, quoi. Ouais.
Mais non, c'est vrai que. Et alors,
elle
moi,
te connaît trop bien.
J'ai tendance à me dire. Surtout en 2016, à cette époque-là, quand le film sort, dans le contexte des années 2010, dans le contexte hollywoodien des années 2010, je me disais, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un blockbuster, un gros film de studio comme ça, qui ne se refuse rien à ce point-là, quoi. Tu vois. Et honnêtement, les précédents, alors c'est pas dans le domaine de l'humour, tu vois, mais les précédents, je pense à, ça remonte au moins au milieu des années 90, hein. Avec des trucs genre les films de Paul Verhoeven, tu vois, Showgirl, ces machins comme ça, quoi.
Non, y a, alors bon, après, en comédie, hyper dégénéré, t'as Freddy Godfinger de Tom Green, mais qui n'est pas un énorme blockbuster, mais qui était un film sur lequel le studio misait beaucoup parce que c'était une méga star à l'époque, en fait.
Ouais, mais c'était un truc un peu plus confidentiel, quand même. Hein.
C'est, bah, déjà, c'est pas sorti en France, hein, quasiment. Ça s'appelait Va te faire foutre, Freddy, en français. Mm. C'est hyper... c'est chaud. C'est très chaud comme film.
Ouais.
Mais après, t'en as quelques-uns des comédies comme ça qui
date
partent...
de quoi Va te faire foutre Freddy, là, c'est
2002.
Ouais, donc moi, je dis vraiment dans le contexte du Hollywood des années 2010.
Par exemple, Little Nicky. Ouais, bon, même
c'est pareil, c'est 2002, non
Little Nicky, c'est 99, je crois. Ouais. Non, c'est 2000. Mais, t'as Hitler qui se prend des ananas dans le cul.
Ouais.
C'est un peu drôle.
Ouais, c'est un peu drôle, mais...
Mais c'est Hitler, en fait, Hitler, ouais, ça va, on a le droit maintenant.
C'est pas tant sur les gags. C'est le fait de dire, dans le contexte des années 2010... des studios de cette époque-là, voir un film comme ça, un gros film de studio qui ne se refuse rien, qui n'a aucune inhibition et qui ne compose pas, quoi. Tu vois, tu te dis, putain, mine de rien, ça fait longtemps qu'on en a pas vu un, quoi. Tu vois, quoi, c'est les années 2010, ça aurait été quand même les années de l'uniformisation.
Oui, ça c'est vrai, on en a parlé longuement et tout, mais en fait, le truc que j'allais dire par rapport à ça aussi, c'est qu'il y a peut-être une problématique en fait chez les studios à arriver à vendre des comédies aujourd'hui. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, dans le contexte en fait de même de la sortie du film, il y avait quasiment plus de comédies en fait qui sortaient en salle, quoi. Donc du coup, en gros, je pense que tu vois là, il y a par exemple Louis de Terrier, on a produit qui est sorti aux États-Unis là cet été, qui s'appelait Strays. C'est pareil en fait, c'est un film qui s'est complètement, c'est un peu plus une comédie familiale, mais avec des moments graveleux comme ça, et c'est des chiens et des chats et tout ça, etc., des animaux, mais on voit des grosses bites de chiens, des trucs comme ça, etc. Il y a enfin c'est le même type d'humour, on va dire, quoi, comme quoi film d'auteur. Comment dire, Grimsby, quoi. Mais oui, enfin, c'est pareil, ça s'est planté. Alors, ça va pas aussi loin que Grimsby, hein, faut être honnête, hein, ce film-là, quoi. Mais oui, y a, je pense qu'il y a toute une conjonction, en fait, d'éléments qui font que ça pouvait pas marcher. Même si, bon, bah, ça leur semblait une bonne idée de produire un James Bond, une parodie de James Bond par Sacha Baron Cohen, ça ne pouvait pas marcher. Et surtout, oui, là, tout le monde s'est fait un peu petit derrière, si tu veux.
Bah, le film a été un four atomique, ouais, hein. Ouais. Ce qui est assez ironique, c'est que au moment où il sort et où le film se vient d'entrer au box-office, quoi, t'as un autre film en salle, produit par un gros studio, Disney. Qui est écrit par le même scénariste et qui s'appelle Zootopie, qui va être un très gros succès. Et c'est assez marrant, je pense. Moi, je me suis pas refait Zootopie depuis un certain temps, mais c'est assez marrant de comparer les deux, quoi.
C'est un dessin animé, l'autre. Hein. C'est un truc.
C'est un dessin animé, mais c'est précisément par rapport à l'époque qui a vu sortir ces deux films, où l'un est clairement dans son époque, Zootopie, dans cet esprit de d'humour un petit peu consensuel, tu vois, quoi, des très disneyens, et l'autre d'humour à la rien à foutre total, quoi, tu vois, quoi. Donc il y en a un qui est très représentatif d'un cinéma qui n'existe quasiment plus à cette époque-là, et l'autre par contre qui a les deux pieds bien implantés et qui va être encore une fois un gros succès, quoi. Donc Grimsby, c'est je sais plus combien il a rapporté exactement. Je ne sais plus combien il a coûté exactement, mais ça a été un film où...
Non, c'est un four, hein, c'est clairement un
four. Tous ceux qui y ont participé ne veulent plus trop en parler.
Non, aujourd'hui, alors ça, je sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, le truc qui est clair, c'est que, d'ailleurs, il fait quelques vannes là-dessus dans le film, là, c'est que, en fait, Le Terrier, il est revenu dans les grâces des studios grâce à Fast X, par exemple, quoi, mais il fait des blagues sur Fast and Furious, tu vois.
Le nouveau méchant d'Astérix.
Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est Fast X, que ce soit ouais. Fast 10, tu vois, je sais pas. Ouais. Fast and Furious 10, quoi. Et voilà, donc en gros, ouais, il leur a sauvé les miches, hein, au studio aussi. Pareil, là, il leur a récupéré le film en plein vol et il leur a fait, il leur a fait un film qui tient la route, en un an, quoi. Donc voilà.
Ouais, profil étonnant, hein, Louis Le Terrier.
Mais il était en train de faire des grosses vannes. Il était en train de faire des grosses vannes sur Fast and Furious dans Grimsby, quoi. Tu vois, il y a plein de moments où ils se foutent de la gueule de Vin Diesel, où ils se foutent de la gueule de
ça, c'est ironique a posteriori. Hein.
Oui, bien sûr. Mais en plus, il est fan, hein, lui. Il a toujours réclamé le fait d'être fan de Fast and Furious, et surtout même du 5 en l'occurrence, ou des trucs comme ça, quoi. Bon, qu'apparemment est un des plus populaires de la saga, quoi. Mais le truc, si tu veux, c'est qu'il y a ça, il y a la vanne sur Vin Diesel, il y a le fait que, en gros, les fans de Fast and Furious sont assimilés à un personnage comme Nobby, quoi, c'est-à-dire tous des gros beaufs, en fait, tu vois, de la banlieue londonienne, quoi. Donc voilà, c'est assez, ouais, c'est ironique et c'est assez marrant de voir ça, effectivement, avec le recul, quoi. Chef-d'œuvre, hein.
Chef-d'œuvre,
Arnaud Bordas, voilà, je pense qu'on peut le dire, quoi. Est-ce que c'est estampillé métacritique d'Ernest Bordeaux, quoi. C'est bon ?
Non, c'est magnifique, très émouvant, regardez-le.
Voilà. Donc en plus, tu vois, voilà, il a essayé de vous vendre un Ken Loach, tu vois.
Non.
C'est plus graveleux qu'un Ken Russell, quoi. Donc voilà, quoi.
J'ai quand même pas dit ça, faut pas exagérer non plus.
Bon. Arnaud ?
Oui. Stéphane.
Merci d'être venu, merci d'être revenu pour ce film.
Merci d'être revenu, merci à toi Stéphane, merci de m'avoir réaccueilli.
Voilà, merci à la technique derrière qui a subi nos ricanements pendant tout ce podcast, quoi. Je sais même pas combien de temps on a fait, mais on a fait long, je pense. Voilà, merci à vous tous qui nous suivez, puis on se retrouve à la prochaine, Arnaud, hein, avec un film un peu plus noble peut-être, tu vois.
Ouais.
Voilà, peut-être pas aussi grand, peut-être pas aussi beau, peut-être pas aussi fort.
Ouais, on ne peut pas traiter des Citizen Kane à chaque fois, donc.
Exactement, hein. Ouais. Voilà.
Allez.
Merci à tous.
À bientôt.